Avec Nathalie Normandeau, d'entrée de jeu, Nathalie, François Legault qui teste la confiance de la population envers ses ministres dans le cadre de sondages portant sur la COVID. J'ai vu passer ça il y a quelques instants. Les partis d'opposition à Québec demandent à la coalition Avenir Québec de rembourser.
Oui, oui, bien écoute, non. Premièrement, bravo au Journal de Québec et de Montréal, parce que cette opération, on sonde les cœurs des Québécois, on a l'impression que c'est fait en catimini, et le chiffre qu'il faut retenir, c'est 3 millions de dollars, c'est ce qu'a dépensé la CAQ depuis le début de la pandémie, même un petit peu avant, pour effectivement effectuer des sondages. Moi, j'ai envie de te dire, Robert, que la CAQ, le gouvernement caquiste, souffre de dépendance. Ils sont devenus accros aux sondages. Écoute, sonder comme ça, ça se peut pas, là. C'est un sondage après l'autre, là. C'est plus qu'un sondage par mois, ma foi. Et on teste toutes sortes d'affaires. La popularité de certains ministres, Pierre Fitzgibbon, Geneviève Guilbeault, Jean-François Robert, j'en passe en trois ministres qui se sont trouvés malgré eux sur la sellette. On teste les mesures sanitaires, on est pour, on est contre.
Mais
et en lisant
il ferait ça,
ce matin,
Nathalie.
Je me suis dit,
oui. Oui, mais il ferait ça, Nathalie, pour adapter ses décisions.
Ah oui, ça c'est la version officielle du gouvernement, c'est la réponse officielle. Mais entre toi puis moi, Robert, là, écoute, comment on veut vraiment, parce que gouverner par sondage, on s'en est déjà parlé, toi
oui,
et moi,
oui.
Là, il peut avoir un avantage, mais il y a un risque aussi, c'est que tu te retrouves toujours du côté de la clôture, du bon côté de la clôture.
Du populisme.
Ben exactement, c'est ça. Alors, mais je comprends qu'on est dans un contexte de pandémie, mais selon moi, c'est le seul gouvernement au Canada avoir opté pour cette façon de sonder les Québécois. Je pense pas qu'il y ait aucune province au Canada qui investit autant, qui a dépensé autant dans les sondages. Je disais ça, je me disais un peu plus, puis on va sonder les Québécois sur la couleur des cravates du docteur Arruda,
bon,
là, tu sais, je veux dire, à un moment donné.
Le faire, Nathalie, pour l'intérêt supérieur de la nation, c'est une chose, mais ce que l'opposition dit à Québec, c'est qu'il font pour des fins partisanes, alors ils doivent rembourser.
Tout à fait. Tout à fait. Mais tout à fait. Puis ils ne rembourseront pas, on s'entend. Les partis d'opposition ont déjà demandé à la vérificatrice générale du Québec de fouiller ce dossier-là. C'est la prérogative du gouvernement de faire ce qu'il le fait. Mais ça lui fait pas une très belle jambe parce que on se dit, en bout de ligne, effectivement, ça sert plus des intérêts partisans que des intérêts gouvernementaux, parce qu'il faut pas oublier que la CAQ, le gouvernement de la CAQ, c'est le gouvernement de tous les Québécois. Puis, Robert, une donnée importante, il y a une élection qui s'en vient au Québec, c'est dans un an, un peu plus d'un an, automne 2022. Alors, le gouvernement est de plus en plus frileux, là, tu sais, tu comprends, est-ce qu'on est encore populaire, est-ce que les gouvernements, les citoyens nous font encore confiance, est-ce que le premier ministre a toujours la cote d'amour des Québécois. Alors ça, le parti, tu sais, dans le fond, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi c'est aux contribuables à payer ça? La CAQ aurait très bien pu, à même son trésor, à même les dons qui sont faits au parti, assumer une partie ou la totalité de la facture. Mais ce n'est pas le choix qu'a fait le gouvernement. Là-dessus, clairement, le gouvernement devra rendre des comptes, ça me semble incontournable.
Bon, allons à Ottawa, si tu veux, maintenant. Triste affaire d'une personne qui va... on peut parler d'un acte de terrorisme aujourd'hui, là.
Ah oui, c'est le langage qu'ont utilisé les chefs de parti à Ottawa, là, suite aux événements de London en Ontario, évidemment.
Des musulmans qui sont visés.
Oui, là, oui. Sauf que, famille décimée là, par un fou, on faut le dire, Robert, fou volant de sa camionnette. Les parents marchaient dans la rue avec la grand-maman et puis leur grande-fille de 15 ans, puis lui a décidé que parce qu'il était musulman, c'est terminé. Il les a heurtés. Ils sont tous morts en laissant orphelin le petit garçon de 9 ans. C'est terrible. Là. C'est vraiment une tragédie dont on parle partout sur la planète en passant. Là.
Ce matin, à Ottawa, le débat autour de ça a dévié un peu. Je te fais entendre Yves-François Blanchette avant d'aller un peu plus loin.
Je vais dire une chose que je viens de dire et une autre que je n'ai pas dit depuis quelques mois. Je ne vois pas comment on pourrait imaginer qu'une loi dûment adoptée dans une institution démocratique pourrait être derrière un geste terroriste d'un individu à de nombreux kilomètres de là, d'une part. D'autre part, je l'ai dit il y a un an, là, moi vous leur dire, là, les Québécois sont écœurés de se faire traiter de racistes.
Parce qu'aux États-Unis, en Ontario, je m'excuse, il y en a qui cherchent des boucs émissaires. Et là, on parle oui. de plus en plus de la loi 101, la loi 21, qui
21.
Serait,
mm-hmm.
oui, qui serait associée à cet acte de terrorisme. Qu'en penses-tu?
Bien, la loi 21, faut-il le rappeler, qui est la loi qui est adoptée, qui est contestée devant les tribunaux sur la laïcité de l'État. En politique, Robert, c'est comme le sport. Des fois, tu joues offensif, des fois, tu joues défensif. Yves-François Blanchet a convoqué la presse ce matin, puis parce qu'il voulait jouer offensif, il voulait s'en prendre. L'objectif, c'était de ridiculiser la position de Justin Trudeau, parce que Justin Trudeau, hier, a fait un lien entre le port du masque en pandémie et l'interdiction de porter le voile confirmé par le projet de loi ou par la loi 21. Mais là, il s'est retrouvé dans une position où c'est lui qui a été attaqué par les journalistes qui étaient présents. Et dans la presse anglophone, ailleurs au Canada, bon, il y en a qui s'emploient la presse. Il y a certains éditorialistes, chroniqueurs qui s'emploient à faire un lien entre l'adoption de cette loi au Québec et des événements comme celui qui s'est produit à London.
Ce qui est pas mal tordu.
Sur le fond, absolument. Sur le fond de la question, là, écoute, on s'entend, là, Yves-François Blanchet a raison, là, il n'y a pas de lien à faire entre les deux. Du racisme, il y en a partout, pas juste en Ontario, il y en a partout au Canada. Malheureusement, ça donne parfois droit à des épisodes, à des drames qui sont absolument inimaginable et qu'il faut condamner sans aucune nuance. C'est ce qu'ont fait les chefs de parti à la Chambre des communes. Mais là, Yves-François Blanchet s'est retrouvé dans une position, il s'est tellement fait questionner qu'à un moment donné, ben il a pogné les nerfs en bon français. Puis là, c'est là il a sorti sa fameuse phrase, ben je vais le dire, là, les Québécois sont écœurés de se faire traiter de racistes. Alors, ce qu'on retiendra de ce point de presse qui visait à pointer du doigt le gouvernement de Justin Trudeau, ben c'est retourné contre lui. Mais en bout de ligne, au bout de l'exercice, là, l'amalgame très, très boiteux que font certains éditorialistes dans la presse anglophone avec les événements de l'événement de London et la loi 21, là, ça tient pas la route. Là. Ça me semble assez évident.
Une autre nouvelle intéressante pour les voyageurs, Ottawa qui va assouplir quelque part au mois de juillet la quarantaine
oui.
pour les Canadiens qui seront adéquatement vaccinés. Ça ouvre la porte donc au fameux passeport vaccinal.
Oui, c'est là qu'on fait la vague, mon cher Robert. Pas la vague de la COVID. Oui, la vague parce qu'on est bien excités. Rappelle-toi, on nous a vendu les deux doses comme le passeport qui va nous conduire à la liberté. Il y a de plus en plus de pression qui s'exerce auprès du gouvernement du Canada, des États-Unis cette semaine pour qu'on puisse réouvrir la frontière de façon progressive, de façon sécuritaire, certes, mais quand même. Et je disais cette semaine un sondage publié par Léger. Il y a 78 % des Américains qui souhaitent qu'on puisse procéder à l'ouverture de la frontière avec terrestre, on s'entend avec le Canada. Mais du côté du Canada, 36 % des Canadiens sont en faveur. Donc, on est plus frileux de ce côté-ci. Probablement, ça s'explique probablement parce qu'au Canada, il y a moins de personnes, de citoyens qui ont reçu leurs deux doses. On est à quoi? Peut-être 8 % des Canadiens qui ont reçu leurs deux doses. Aux États-Unis, là, mon Dieu, c'est plus de 40, je pense que c'est près de 44-45 %. Alors, ils sont très, très avancés. Mais tu comprends que ce genre de nouvelles, on est très excités. Moi, je ne sais pas c'est toi, là, mais moi, j'ai hâte de pouvoir commencer à rêver de mon prochain voyage. Il y a des gens qui ont déjà acheté des voyages pour s'en aller dans le sud, dans les tout-inclus en Floride cet hiver. Beaucoup de Québécois s'activent, beaucoup de Québécois ont hâte de voyager. Alors, c'est une bonne nouvelle, mais on va faire ça progressivement parce qu'il y a encore, évidemment, la menace du variant indien qu'on appelle maintenant le variant Delta. C'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Et ça, il faut toujours demeurer extrêmement prudent. Puis sur le plan économique, il ne faut pas oublier que la frontière, tout le commerce qui se fait entre du côté canadien et américain, je pense que de mémoire, c'est 2 milliards par jour de marchandises et de biens qui sont transités de part et d'autre de la frontière. Écoute, c'est la plus longue frontière qui lie deux pays au monde. Et c'est une frontière hautement stratégique et pour le Canada et pour les États-Unis. Alors, tu vois, tout ça, ça augure très, très bien. Là. Ça nous donne un peu d'espoir, un peu d'oxygène en ces temps de fin de pandémie. C'est ce qu'on souhaite, hein, la fin de la pandémie avec la double dose qui nous est offerte.
Hey, un mot sur les balles. Je reviens oui. au gouvernement caquiste. Valse hésitation. Effectivement, c'était bizarre. Non, mais hier, dans le point de presse, je l'ai entendu, c'était bizarre. Là, il n'y a pas vraiment de facteurs qui viennent influencer ou scientifiques qui viennent influencer ce volte-face de la santé publique et du gouvernement du Québec. Alors, il y en a dans le domaine de l'éducation, j'en ai entendu au collègue Paul Arcand ce matin, en beau fusil, qui dit « Nous autres, oui. on n'embarque pas là-dedans, c'est faux, on fera de quoi en septembre, mais cette année, il est trop tard. »
Oui, il est trop tard, parce que les comités de base, généralement, dans les écoles secondaires, à moins que je me trompe, mais ça se met en place quelque part au début de l'automne, en septembre, octobre. Là, tu as des enseignants qui s'impliquent, souvent la direction de l'école, le personnel de soutien qui est mis à contribution pour l'organisation logistique de l'événement. Ben, écoute, 8 juillet, là, on dit, vous allez pouvoir procéder à la cérémonie de la graduation comme telle, c'est-à-dire la remise des diplômes avec les parents en dehors des heures de classe, ça, c'est super. Puis en plus de l'avoir droit à un bal avec des contacts, on va danser.
Je ne sais pas si tu as entendu.
8 juillet, Robert. 8-9 juillet, Robert.
La même affaire que moi, Nathalie, ça sonnait comme on a cédé à la pression publique.
Clairement. Écoute, parce qu'il y a une pétition de jeunes du secondaire, je crois plus de 10 000 noms qui ont été recueillis, mais c'est le genre de nouvelles qui ne passent pas. Il y a des étudiants qui étaient résignés, d'autres qui se disaient, ben oui, on est déçus, mais en même temps, il y a des parents qui étaient en colère. Parce que le bal des finissants, tu le sais, hein, c'est un rituel, c'est une célébration de l'excellence, de la persévérance, de la détermination. C'est quelque chose, ça marque une étape importante dans la vie d'un jeune. Et passer du secondaire 5 au cégep, là, c'est tout un step, là, pour oui. Tu as vécu ça dans ta vie, oui. là. Alors, tu sais, ça vient marquer tout ça. Et puis, il faut dire aussi que les jeunes ont énormément... on leur a fait vivre ça difficilement. La pandémie, ils l'ont eu dur, là. Et on leur a fait vivre... On leur a demandé énormément de sacrifices. Alors, pour eux, c'était comme une récompense, surtout qu'on est en fin de sortie de crise. Plusieurs Québécois ont déjà reçu leur première dose. Alors, on se dit, logiquement, il me semble que le gouvernement aurait pu faire un effort de plus. Ils en ont fait un effort de plus. Ils ont fait un tour de roue additionnel. Mais voyons donc, 8-9 juillet, tout le monde est en vacances dans nos écoles. Penses-tu, toi, que les conventions collectives, on va assouplir les conventions collectives dans le domaine de l'enseignement pour permettre l'organisation d'un bal? Ben oui, c'est rêvé en couleur. Tu sais. Alors oui, ils ont donné l'autorisation, mais peut-être en sachant que la probabilité que ça arrive est peut-être faible. Puis l'autre chose, c'est que ça met une pression importante sur les directions d'école, oui. sur les enseignants, parce que là, les étudiants se retournent vers leur prof. Bien là, qu'est-ce qu'on fait? Il va se passer quoi? Alors, tu vois, je trouve ça un peu, oui. honnêtement, que je vais parler comme une jeune, là, oui. c'est poche. C'est poche. La manière que ça se termine, là, c'est poche.
Le petit singe a changé d'épaule, hein?
Oui. Le gros singe, je veux dire, ben oui, absolument, tout à fait. Non,
écoute, en terminant, un mot sur les négociations avec l'État. Il n'y a pas une journée où je n'arrive pas au travail, dépendamment du chemin que je prends. Je ne vois pas de manifestation de ce temps-là. Hein, il y a des travailleurs de l'État, que ce soit des enseignants, que ce soit dans le secteur de la santé, qui ne manifestent pas. Là, il y avait ce matin, c'était les employés de soutien du cégep de Trois-Rivières qui manifestaient. C'est pas évident de négocier avec tout le monde en même temps.
Non, c'est pas évident. Faut se rappeler que c'est quoi 550 000 employés de l'État qui sont en négociation de leur convention collective. Robert, moi, je me pose beaucoup de questions parce que faut dire dans votre coin, tu as l'impression qu'à Trois-Rivières, il y a beaucoup de manifestations, mais vous avez un ministre du Travail qui est oui. interpellé par cette négociation. Il y a aussi la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, qui est de votre région. Mais moi, je me questionne, écoute, on est en fin de session parlementaire, là, Robert, et là, on n'a toujours pas d'annonce d'entente avec les employés d'État. Il y a quelques tables qui ont réglé leur convention collective, entre autres dans le domaine de l'enseignement, le domaine de la construction, c'est réglé, mais il y a encore plusieurs centaines de milliers de travailleurs qui sont sans convention collective. Est-ce que le gouvernement nous prépare une loi spéciale? Je pose la question parce que il se pourrait fort bien que dans un souci de mettre ce dossier-là sous le tapis pour éviter de passer la période estivale à négocier avec les différents syndicats, se pourrait-il que le gouvernement actuellement s'emploie à rédiger une loi spéciale? Selon moi, c'est dans l'ordre des probabilités et des possibilités.
On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Nathalie. Passe
Merci,
une très
Robert.
Belle journée. Profite du beau temps. Il fait soleil aujourd'hui et puis il fait chaud en plus. Ça va se rafraîchir au cours des prochains temps. Nathalie Normandeau est avec nous autres. Heureusement, encore 4 jours après ça, Nathalie va faire autre chose, là, mais on va en profiter. Elle sera avec nous autres dans Midi Plus. Aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, la même chose. Et après, ce seront les vacances.